Europe Soir,
le 18-20.
Julien Bugier.
Et on est ensemble évidemment jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes. Et puis comme chaque soir à partir de 19h15, le Club des idées avec ce soir deux invités au programme. La productrice Mélissa Torio qui vient nous parler de son documentaire Choc contre la maltraitance des enfants. C'est bouleversant. C'est diffusé ce soir à 22h30 sur France 2. Et puis à 19h20, grand entretien ce soir avec François Bayrou, le nouveau commissaire au plan. Ancien ministre, il est aussi, dit-on, celui qui murmure à l'oreille du président. Comment voit-il la période qui s'ouvre de déconfinement gradué, sa vision pour la France, ses grands projets, le besoin d'autorité des Français, on en parlera également avec lui. Il est donc notre invité dans 20 minutes maintenant. Le journal d'abord, avec Isabelle Millet. 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Comme en février dernier à Mulhouse, un rassemblement religieux dans l'Orne provoque une flambée de cas de coronavirus, rassemblement qui n'avait pas été autorisé.
Alors que les conditions d'un déconfinement très progressif se précisent, palier par palier, ne surtout pas reproduire les erreurs du printemps.
Certains gels hydroalcooliques vendus en France, y compris dans les pharmacies, sont inefficaces. Ils ne contiennent pas suffisamment d'alcool.
Au sommaire également ce soir, la douleur et la colère des parents d'Alexia Daval à la barre face à leur Jean Jonathan qui a reconnu le meurtre de leur fille.
Le désarroi de Samuel Paty dans ses derniers messages à sa hiérarchie et à ses collègues. Les mails du professeur assassiné révélés par le journal Le Monde. Et puis un tableau de Salaï, un disciple de Léonard de Vinci, s'envole aujourd'hui aux enchères.
La tendance météo avec Anissa, plus de nuages et du vent demain.
Oui, avec le passage d'une perturbation, le temps est un petit peu plus couvert demain, mais surtout demain à la mi-journée, le vent se lève et va souffler fort, notamment dans le sud avec des rafales jusqu'à 150 km/h. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Souvenez-vous, c'était en février dernier, un rassemblement de l'église évangélique à Mulhouse à l'origine du premier cluster identifié en France.
Oui, point de bascule de la pandémie dans le Grand Est, selon le ministère de la Santé. Eh bien, on découvre aujourd'hui donc qu'encore une fois, un rassemblement religieux serait à l'origine d'un cluster, rassemblement qui s'est déroulé fin octobre dans l'Orne, Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, un rassemblement organisé par la communauté catholique de l'Emmanuel entre le 22 et le 25 octobre dernier, en pleine vacances de la Toussaint. On est à la chapelle Mont-Lijon, dans le département de l'Orne, le centre mondial de prière pour les défunts. 190 personnes se rassemblent pendant trois journées dans le sanctuaire situé dans un petit village de 500 habitants. Alors, première interrogation qu'on pourrait avoir sur l'organisation de ce séminaire. Sur ce point, on le rappelle, la France n'était pas à ce moment-là encore reconfinée et selon la direction de la basilique, il n'y avait pas besoin d'autorisation de la préfecture. Elle assure que les consignes sanitaires étaient respectées. Mais ce qui pose également question, c'est le suivi sanitaire, car quelques jours après le rassemblement, des premiers cas de Covid ont été détectés parmi les participants et selon le journal Ouest France, ni l'ARS ni la CPAM n'ont été alertés. Les deux autorités sanitaires le déplorent parce qu'elles n'ont pas pu mettre en place le tracing prévu dans le protocole, alors que les participants originaires du Grand Ouest sont tous rentrés chez eux. À ce stade, on ne sait pas précisément combien de cas positifs ont été recensés parmi les participants.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois.
Déconfiné par palier pour éviter le rebond, le gouvernement prépare donc l'après.
Oui, et un après qui n'aura rien à voir avec le premier déconfinement, Aurélie Herbemont.
Effectivement, parce que le Premier ministre et ex-monsieur déconfinement lui-même le reconnaît, au printemps, on a peut-être déconfiné un peu trop vite. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement parle d'adaptation du confinement et non de déconfinement. Surtout, ne pas donner l'impression aux Français qu'il faut relâcher les efforts. L'idée, cette fois, c'est d'y aller progressivement. Comme le résume un ministre, il faudra rouvrir les magasins de jouets bien avant les bars. Alors, cette adaptation devrait commencer le 1er décembre, si la situation sanitaire continue à s'améliorer. Premiers assouplissements envisagés, la réouverture des commerces, la reprise des cultes, le retour des mineurs dans les salles de sport, à chaque fois avec des protocoles sanitaires stricts. Et pour ne pas desserrer l'étau trop vite, il y a une option sur la table, repasser par une période de couvre-feu. La question de Noël est en soi un casse-tête. Y aura-t-il une jauge maximale pour déballer les cadeaux au pied du sapin? Emmanuel Macron devra trouver le bon équilibre pour son intervention de la semaine prochaine. Alléger les restrictions, mais sans faire repartir l'épidémie.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1, le gouvernement qui, on le voit, tâtonne encore pour trouver la bonne solution, celle qui permettra de reprendre un semblant de vie normale sans pour autant ouvrir de nouveau la porte en grand au virus.
Et alors que les commerçants ont demandé de pouvoir rouvrir à l'occasion du Black Friday, le ministre de l'économie prend le problème à l'envers. Il demande aux acteurs de la distribution de décaler l'opération opération promotionnelle.
Opération mondiale, hein, on le rappelle. Bruno Le Maire demande aux distributeurs de faire preuve de sens des responsabilités. Alors, pas sûr que le message soit entendu, car contrairement à la date des soldes, le gouvernement n'a pas la main sur cette opération privée.
Ils sont au cœur des gestes barrières, les gels hydroalcooliques sur la sellette.
Certains seraient tout simplement inefficaces pour lutter contre le virus, pour une raison simple, hein, Aurélien Fleureau, ils ne contiennent pas suffisamment d'alcool.
Oui, c'est la conclusion de la DGCCRF qui, depuis le mois de juin dernier, a analysé 180 gels vendus en grande surface, en pharmacie ou dans des bureaux de tabac. Des prélèvements ciblés, hein, puisque ces produits paraissaient présenter des anomalies. Et effectivement, 13% d'entre eux sont totalement inefficaces pour lutter contre le coronavirus. Il faut donc absolument scruter l'étiquette avant d'acheter un gel hydroalcoolique, comme l'explique Romain Roussel, directeur de cabinet de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
Alors, le premier réflexe que les consommateurs peuvent avoir, c'est de vérifier la teneur en alcool du produit. Celle-ci doit être au minimum de 60%. Le risque est qu'un produit ne soit juste qu'un produit lavant pour les mains et pas un produit avec une action virucide, avec un effet sur le coronavirus.
Et il faut avoir en tête que la mention EN14476, située au dos du flacon, va vous garantir l'efficacité du gel. Certains produits ont été retirés également parce que l'étiquette était trop floue, parfois non traduite en français. D'autres parce qu'ils n'explicitaient pas clairement le caractère inflammable du flacon. La DGCCRF rappelle que la grande majorité des gels est efficace et sans risque, mais les contrôles continuent.
Précision importante d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
19h05, la famille d'Alexia Daval face au meurtrier de leur fille Alexia, face à face éprouvant devant les assises de la Haute-Saône.
Alors que Jonathan Daval vient à l'instant de présenter ses excuses, hein, lui qui a reconnu le meurtre. Excuses donc après la bouleversante déposition ce matin de Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia. Cet après-midi, c'est la mère et la sœur de la jeune femme qui ont pris la parole.
Une maman qui attend toujours des réponses et qui est venue réhabiliter la mémoire de sa fille.
Ah, je suis soulagée. Je suis soulagée d'avoir témoigné. J'ai dit tout ce que je voulais. Il était touché quand je lui ai lu la lettre, la carte de Saint-Valentin qu'Alexia lui avait écrite. Il pleurait. Oui, j'aurais aimé qu'il me regarde. Mais déjà, moi, de le regarder, c'était déjà quelque chose. Parce que d'où on est assis, on ne le voit pas très bien. Donc là, je le voyais. Mais c'est vrai qu'il pleurait. Il pleurait quand je lui ai lu la lettre. C'est pas que ça m'a touchée, mais je me suis dit, je sens que je lui impulse quelque chose. Voilà.
La mère d'Alexia Daval au micro européen d'Arthur Mbaché.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h08, la suite de votre journal. Il y a un peu plus d'un mois, la France, sous le choc, découvrait l'assassinat de Samuel Paty, décapité devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine, une dizaine de jours après avoir montré les caricatures du prophète Mahomet à ses élèves de 4e.
Quelle a été précisément l'attitude de la direction de l'établissement, mais aussi des collègues de l'enseignant? Eh bien, le journal Le Monde a eu accès aux derniers mails du professeur échangés avant sa mort, des échanges qui permettent d'éclairer un peu mieux la chronologie des événements, Virginie Riva.
Oui, seulement 2 jours après ce cours où il a montré les caricatures, la principale l'alerte. Un individu a menacé de faire venir des musulmans devant le collège, lui dit-elle, et d'alerter la presse. L'enseignant parle d'abord d'absurdité de la situation, puis évoque une rumeur malfaisante. « C'est vraiment affligeant », écrit-il, « d'autant plus que cela provient d'une famille dont l'enfant n'a pas assisté à mon cours et que je ne connais pas ». Samuel Paty qui ajoute qu'il ne travaillera plus sur les caricatures en classe. Tout au long des échanges, on voit que le soutien de la principale est constant. Elle alerte les services départementaux de l'éducation nationale, mais rien n'y fait. La situation s'embrase à l'extérieur du collège. Soutien plus mitigé de la part de ses collègues enseignants, puisque 2 d'entre eux se désolidarisent en interne au cours du week-end. Samuel Paty leur adresse à tous un mail pour s'expliquer. Il assume d'avoir montré une caricature trash, dit-il, et revient sur le fait d'avoir proposé aux élèves qui auraient pu être choqué de ne pas la regarder ou de sortir. Il a surtout remonté le fil de la propagation de cette rumeur et veut le leur expliquer. Il raconte avoir appelé dans la semaine une mère d'élève qui avait mal compris sa démarche, l'accusant de discrimination. Il dit qu'elle a finalement très bien pris son coup de fil. Problème, on comprend que c'est cette mère qui a parlé de l'épisode au père de famille qui a tourné la vidéo accablant Samuel Paty et qui va précipiter son assassinat.
Virginie Riva du service Société d'Europe 1.
L'actualité sociale avec Vallourec qui annonce la suppression 1 millier de postes, dont 350 en France.
Le fabricant français de tubes sans soudure pour l'industrie de l'énergie veut, dit-il, renforcer sa compétitivité. Le plan de relance de l'Union européenne, le Parlement européen refuse de renégocier l'état de droit contesté par par la Hongrie et par la Pologne. Budapest et Varsovie ont posé leur veto contre ce budget européen et contre le plan de relance post-Covid.
Le Boeing 737 MAX va enfin pouvoir revoler. L'aviation civile américaine lève donc l'interdiction qui frappait cet appareil cloué au sol depuis mars 2019.
Un accident après des crashs qui avaient fait 346 morts. Plusieurs modifications devront être effectuées sur les appareils avant qu'ils ne puissent être remis en service. Et puis les pilotes devront suivre également une nouvelle formation avant de reprendre les commandes. Il fut l'élève et l'amant de Léonard de Vinci, le peintre Salaï, beaucoup moins connu que son illustre maître. Et bien l'une de ses toiles, une Madeleine pénitente, vient d'être vendue aujourd'hui aux enchères chez Arcurial pour 1 745 000 euros. C'est un record pour cet artiste.
Une belle Madeleine pénitente. Et c'est surtout l'occasion avec vous, Diane Chénouda, de découvrir cette face cachée de Léonard de Vinci, cet élève surdoué qui a eu une grande place dans la vie du génie de la Renaissance.
Oui, Salaï veut dire petit diable en italien. C'est le surnom qu'avait donné Léonard de Vinci à celui qui était sans doute, vous l'avez dit, son amant et surtout son élève et plus fidèle disciple pendant 25 ans. Mathieu Fournier, spécialiste des maîtres anciens chez Arcurial.
Il arrive à l'âge de 10 ans dans l'atelier de l'artiste. Donc il arrive comme un petit garçon, préparateur sans doute dans l'atelier. Et c'est une personnalité qui est vite remarquée comme étant espiègle, un petit peu fourbe, curieuse, bagarreur. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui retient l'attention de Léonard. Il le décrit comme voleur, menteur, obstiné et têtu. Donc une personnalité vraiment dure à maîtriser, qui devait considérablement divertir et amuser Léonard de Vinci.
Au point que le jeune Éphèbe sert aussi de modèle à Léonard de Vinci pour ses tableaux très célèbres, comme le Saint-Jean-Baptiste exposé au Louvre. Il a même été dit que la Joconde, c'était lui, Salaï, que Léonard avait peint. Mais aucun expert sérieux n'y croit, même s'il a pu l'inspirer.
Diane Chénouda du service Culture d'Europe 1.
Merci Isabelle. À demain.
À demain.
La météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Le vent va souffler fort demain, chère Anissa.
Particulièrement dans le sud, Julien, demain, sur le Roussillon, les Pyrénées-Orientales, la vallée du Rhône, le bassin méditerranéen et la Corse, vous l'avez compris, Mistral et Tramontane, se lèvent fort à la mi-journée demain. Au passage de la perturbation, le vent donc se lève. 100 km/h pour le Mistral, c'est beaucoup. Et 130 à 150 km/h demain sur le Cap Béarn, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Attention sur les reliefs aussi, hein, ça va souffler fort. Le vent devrait souffler fort comme ça jusqu'à vendredi matin. Dans le ciel des Pyrénées au Grand Est, là c'est couvert avec la perturbation. Ailleurs c'est plus ensoleillé. Sur les Pyrénées et les Alpes, nous aurons de la pluie, de la neige, même à partir de 1400 mètres. Les températures, elles baissent bien. Couvrez-vous demain puisque nous aurons des petites gelées dans l'arrière-pays provençal. Et puis seulement 10 à 22 degrés demain après-midi. Par exemple, 11 degrés à Paris, on perd 5 degrés entre aujourd'hui et demain.
Bien, ressortez les anoraks et les blousons. Merci Anissa.
À demain.
À demain. 19h13, on ouvre maintenant comme chaque soir le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, dans le Club des idées, en guise de carte blanche, on souhaitait vous parler du documentaire événement diffusé ce soir sur France 2, Bouche cousue. Bonsoir Mélissa Thorio.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes la productrice de ce film absolument bouleversant sur la maltraitance des enfants. C'est un film écrit et réalisé par Karine Dufour, diffusé donc à quelques jours de la Journée internationale des droits de l'enfant. Ce sera vendredi. On y suit le juge des enfants du tribunal de Bobigny. Il s'appelle Édouard Durand, qui d'ailleurs force le respect, et la parole de trois adultes battus dans leur enfance, dont l'animateur Thierry Beccaro. Pourquoi d'abord avoir choisi de montrer le travail de ce juge ?
Montrer ce visage de la justice nous semblait salvateur, Karine Dufour et moi, la réalisatrice. Elle l'avait déjà rencontré lors d'un précédent documentaire sur le délai de prescription.
Oui.
Et nous avions repéré le travail du juge auprès des enfants, c'est-à-dire un travail d'écoute, où l'enfant et son intérêt sont sans cesse dans ses préoccupations majeures. Et nous avons patienté pour le convaincre d'accepter ce dispositif très léger, mais qui permettait en effet d'être témoin de son travail, de ce rappel à la loi très ferme, très lucide envers les adultes, et en même temps de cette bienveillance, de cette douceur et de cette écoute entière envers chaque enfant. Il nous a semblé vraiment essentiel de pouvoir montrer ce travail.
Et c'est vrai qu'il fait un travail absolument admirable. On ne voit pas le visage des enfants, mais on les devine. Et c'est ça qui fonctionne aussi très bien.
Il ne manque pas, je crois, les visages, en effet.
On voit les mains, on voit les pieds, on sent la tension, la gêne lorsqu'ils libèrent leurs paroles. Et ça, c'est très fort dans le documentaire.
On est dans les yeux du juge seulement, et les voix d'abord fébriles, timides, des enfants qui n'osent pas parler, puis qui vont petit à petit se libérer. Entendre le juge répéter les mots des enfants, c'est important. C'est donner aussi de l'importance aux mots qui sont prononcés.
Comment vous avez choisi les trois adultes qui témoignent dans le film, dont l'animateur, dont on connaît l'histoire maintenant, Thierry Beccaro, sont des profils assez différents, mais qui ont la même histoire. Une histoire d'enfant battu, une enfance malmenée avec des effets psychologiques qui aujourd'hui encore les marquent.
Oui, avec une empreinte de la violence et des séquelles durables. Ils ont la capacité d'en parler, ils ont un recul évidemment qui est très précieux. On ne peut pas recueillir au moment T de ces enfants la violence dans laquelle ils se trouvent. Mais Céline parle, qui est médecin aujourd'hui à Necker, parle de cette peur quotidienne de mourir qui est quand même d'une puissance qui nous fait réaliser ce qu'est être un enfant dans une famille violente. C'est important aujourd'hui que l'institution repense à l'intérêt en premier lieu de l'enfant et coupe ce lien parental quand c'est nécessaire.
C'est la question que j'allais vous poser, Mélissa Torio. Vous êtes une femme engagée à travers votre travail de productrice. Vous vous engagez sur des sujets très forts. Celui-ci en est évidemment un. À quelques jours de la journée, je le disais, internationale des droits de l'enfant, c'est aussi un manifeste pour appeler les pouvoirs publics à agir. Que leur demandez-vous à ces pouvoirs publics face à cette situation insupportable des enfants battus ?
D'abord, de débloquer des moyens qui vont permettre de repérer plus facilement tous les enfants qui sont sous coup d'une mesure de protection. C'est entre 350 000 et 400 000 enfants aujourd'hui qui sont sous coup d'une mesure de protection. Si ces enfants-là peuvent bénéficier d'un bilan médical, psychologique, on peut les accompagner, on peut éviter toute cette souffrance et ces effets domino dévastateurs dans la vie de ces adultes, c'est-à-dire de les prendre en charge, de lutter contre cette dépression, ces tendances au suicide, ces troubles alimentaires qui vraiment concernent une grande majorité d'enfants. Seuls 5%, je le rappelle, on le bac en sortant de la
ZEU. Oui, beaucoup sont en situation d'échec tout au long de leur vie. Beaucoup deviennent SDF.
SDF, c'est 40% des SDF.
Beaucoup ont des séquelles évidemment à vie. Ça s'appelle donc « Bouche cousue ». C'est diffusé ce soir sur France 2. Soyez au rendez-vous car c'est un document, encore une fois, très très, très fort. Et ça passe après le film avec Isabelle Carré qui s'appelle La Maladroite, qui est exceptionnel magnifique. Également. C'est à 21h et à 22h30 pour votre documentaire.
Merci infiniment.
Merci d'être venu dans Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans le Club des Idées, grand entretien exceptionnel avec celui qui a été nommé en septembre dernier haut-commissaire au plan. Ancien ministre, président du Modem, c'est une voix qui compte dans la politique française. Il est toujours très proche, dit-on, d'Emmanuel Macron. Grand entretien ce soir avec François Bayrou. Bonsoir François Bayrou.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai, ça vous êtes toujours proche du président. Vous continuez de lui murmurer à l'oreille comme cela se raconte.
J'aime pas du tout cette expression de murmurer à l'oreille, mais que j'ai un lien de confiance avec le président de la République et une proximité, oui, je crois que c'est vrai.
Comment jugez-vous sa stratégie au président de la République sur sa gestion de crise ? On sent que le niveau d'acceptation des Français est arrivé à un seuil, peut-être critique, on en parlera. On a du mal à s'y retrouver dans la communication du gouvernement. Votre avis ?
Bon, c'est pas une affaire de communication. Il y a toujours des faiblesses du point de vue de la communication, vous savez ça bien, vous en parlez tous les jours à propos de quelques événements ou organismes que ce soit.
Mais dans une crise majeure comme celle-ci, la communication, elle est importante.
C'est une crise sans précédent, inédite, qui débouche sur un drame économique comme on n'en a pas vu depuis longtemps, ou comme on n'en a peut-être jamais vu, en tout cas pour ceux qui sont vivants, et avec des conséquences sociales extrêmement lourdes. Mais si vous regardez, il y a des manifestations par dizaines de milliers de personnes contre les mesures de précaution en Allemagne. Il y a des manifestations en Italie, il y a des manifestations en Espagne.
Et pas en France.
Et en France, pour l'instant, il y a une acceptation assez grande de la population qui se rend bien compte que cette crise-là ne ressemble à aucune autre. D'habitude, quand il y a des difficultés ou une crise, on dit c'est la faute du gouvernement. C'est d'ailleurs une réponse très facile, mais là, aujourd'hui, c'est pas la faute du gouvernement, ça n'est pas la faute de la France, ça n'est pas la faute de l'Europe, ça n'est même pas la faute, je crois, des autres grands pays, ni même de la Chine. C'est une catastrophe, au sens étymologique du terme, quelque chose qui vous tombe dessus alors que vous ne l'attendiez pas, et qui est l'apparition, comme on en a toujours vu dans l'histoire de l'humanité, à intervalles réguliers, de virus qui créent. Autrefois, c'était la peste, vous vous souvenez, c'était le choléra. Vous savez ce que La Fontaine disait, ce mal qui répand la terreur, mal que
je ne vais pas vous aider sur ce coup-là, François
Bayrou. Mal que le monde, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. Le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre.
On va revenir avec vous sur le...
ça, c'est les animaux malades de la peste.
Sur l'état de la situation en France. Quelques questions précises d'abord, si vous le voulez bien, François Bayrou. Êtes-vous favorable à la réouverture des petits commerces? C'est vraiment le sujet du moment. Le plus vite possible, avec cette fameuse date butoir du 27 novembre, vous savez, ce jour du Black Friday, le ministre de l'économie Bruno Le Maire pousse en cette faveur. Jean Castex est plus mesuré. Votre avis, il faut libérer le petit commerce. Vous êtes maire de Pau, vous connaissez cette situation.
Oui, j'ai passé 48 heures à recevoir corps de métier par corps de métier tous les commerçants pour regarder leur compte d'exploitation ligne à ligne, oui, pour voir où s'abattaient sur eux les difficultés que nous avons.
Donc vous connaissez leur désespoir.
Et donc, vous me demandez si je suis favorable à la réouverture le plus vite possible. La réponse est oui. L'affaire du Black Friday, il y a deux possibilités. Soit on considère, ce qui est le fond du problème, que la situation s'est suffisamment améliorée pour qu'on puisse alléger les mesures de fermeture, soit on propose aux commerçants de repousser de 8 jours ce fameux vendredi, qui est un vendredi pour faire de bonnes affaires.
Oui. Ça semble a priori exclu parce que c'est une journée de promotion mondiale. Deuxième question, vous êtes un homme de lettres
des exceptions.
Et de culture, François Bayrou. Ça vous révolte qu'on interdise en France de vendre des livres? On peut toujours acheter des jeux de grattage dans les bureaux de tabac, on peut acheter du vin, mais on ne peut pas acheter des livres.
Bon, je me suis beaucoup battu comme d'autres, je n'étais pas tout seul, pour qu'on fasse une exception pour les librairies. Parce que pour moi, le livre, c'est un produit de première nécessité. Ça n'est pas un luxe, le livre. Faut manger et puis il faut pouvoir lire. Le gouvernement a jugé, je pense qu'ils avaient des raisons très profondes, que si on laissait ouvert un type de commerce, alors ça voulait dire qu'il allait y avoir un afflux de demandes et aussi un afflux de clients à vivre. Alors, heureusement, beaucoup de librairies ont créé ces organisations commandées, emportées, click and collect. Et ça marche assez bien. Et j'ai moi-même acheté des livres hier en click and collect à une des librairies importantes de Pau.
Non, mais c'est tout le symbole qu'il y a derrière, François Bayrou.
C'est le symbole.
À Cannes, par exemple, il y a une librairie, vous savez, qui est menacée de fermeture administrative parce qu'elle a décidé, cette dame, d'ouvrir sa boutique malgré tout. C'est ça où je crève, dit-elle. Est-ce que vous comprenez ce désarroi? Est-ce que vous le soutenez?
Je comprends ce désarroi, mais il y a une chose qu'il faut comprendre aussi. Si on ne respecte pas tous les règles et les précautions qui ont été arrêtées, alors on ne pourra pas réouvrir. On ne pourra pas passer les fêtes de fin d'année ensemble. C'est une épidémie qui tue, y compris dans des villes comme la ville dont je suis maire, à Pau. On n'avait pas eu ou très peu de morts au printemps. On a des morts là en nombre important. Et des morts qui ne sont pas tous des personnes... au bord de la disparition, parce que frappé par l'âge.
Oui.
Il y a des drames humains qui sont en train de se vivre là. Je voyais sur les réseaux un petit garçon américain dont la maman et le papa sont morts du Covid, jeune.
Donc respectons les règles.
Et donc, le meilleur moyen de réouvrir le plus vite possible, c'est de respecter les règles actuellement fixées et d'inventer ensemble des disciplines, des manières d'être qui nous permettront, en cas de réouverture, de ne pas faire repartir l'épidémie.
Bien.
Parce que c'est bien ça la question, naturellement. C'est que si on va ainsi de départ de l'épidémie en nouveau départ, eh bien on aura des reconfinements. Et c'est vraiment pas ce dont on a besoin, les commerçants non plus et les libraires spécialement.
François Bayrou avec nous jusqu'à 20h dans le grand entretien d'Europe Soir. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Grand entretien ce soir jusqu'à 20h avec François Bayrou qui nous accompagne dans Europe Soir. C'est un bon Premier ministre, Jean Castex, François Bayrou, parce qu'on sent que la colère contre lui commence à monter au sein de la majorité.
Oui, c'est ce qui se dit, mais entre ce qui se dit et ce qui est vraiment, il y a une grande différence.
Pourquoi c'est un bon Premier ministre, selon vous ?
Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude du contact avec le terrain.
Oui.
Il ne cherche pas à faire d'esbrouf. Il ne cherche pas à plaire. Il ne cherche pas les sondages. Et cependant, il a une cote tout à fait convenable. 47,
oui,
vous chercherez dans votre mémoire les premiers ministres qui avaient ce niveau-là.
Il y avait quelqu'un qui s'appelait Édouard Philippe qui avait une bonne cote avant
lui.
Oui,
a eu une bonne cote tout à fait à la fin.
Oui.
Mais pas du tout, pas du tout.
Mais au-delà de la cote de popularité.
Pendant toute la durée de son mandat.
Et
d'ailleurs, pourquoi est-ce que un premier ministre, je trouve moi qu'il est mieux qu'il ne se préoccupe pas de sa cote, parce que sa fonction est une fonction de prise avec la réalité. La fonction d'un Premier ministre, c'est de faire réellement changer les choses. Pas de faire des discours à perte de vue. Il y a deux rôles. Le président de la République a un rôle de prévision de l'avenir, de fixer le cap pour le pays, et en même temps un rôle de grande intimité avec les Français.
Oui.
Et puis le Premier ministre a le rôle de faire marcher l'État pour que la réalité change.
Mais on a quand même le sentiment dans l'opinion publique que sa parole n'imprime pas. Il parle beaucoup, des conférences de presse, parfois pour ne rien annoncer, parfois pour annoncer et être contredit dans les jours suivants par le président de la République. Et on sent, pardon François Bayrou, on en revient au début de notre conversation, on sent quand même une colère qui monte dans le pays, de la part des petits commerçants notamment, qui pourraient demain se retourner contre le gouvernement. Est-ce que ça, c'est une de vos craintes?
Si on ne peut pas comprendre la situation des commerçants, l'angoisse qui est la leur, les difficultés qui sont les leurs, alors c'est qu'on ne comprend pas ce qu'est la vie réelle de quelqu'un qui est au travail, qui est au boulot et qui se trouve devant une catastrophe absolument imprévue, aussi imprévue et aussi grave qu'une guerre l'a été en d'autres temps.
Certains évoquent l'analogie avec les gilets jaunes. Est-ce que ce qu'on vit en ce moment, ça pourrait se transformer en colère populaire?
Sans doute, mais ce n'est pas ce que je ressens. Et comme vous savez, j'ai senti venir les gilets jaunes très très tôt et j'ai dit que je trouvais qu'il y avait un risque là et qui est un risque qui est rattaché à une réalité extrêmement forte qui n'a pas disparu mais qui n'est pas celle qui domine l'actualité que nous avons aujourd'hui. La réalité des gilets jaunes, c'était la rupture entre le haut, ou présenté comme tel, de la société et la base, qui se sentait appartenir à un autre monde, qui avait l'impression que les dirigeants étaient tellement loin de la réalité que ça suscitait une révolte. Pas du tout le cas aujourd'hui. C'est pas que les dirigeants soient loin de la réalité. Ils affrontent au contraire la réalité la plus dure qui ait jamais eu.
Mais il y a une défiance inédite vis-à-vis du politique aujourd'hui de la part des Français, non, de toutes les institutions, y compris d'ailleurs vis-à-vis des scientifiques. C'est la première fois qu'on voit un mouvement qui remet en question des éléments factuels apportés par les médecins et les scientifiques, y compris d'ailleurs dans ce mouvement anti-vaccin qu'on voit éclore partout en France.
Mais moi, en tout cas, je n'ai pas l'intention de flatter ce genre de mouvement. Le mouvement anti-vaccin, le mouvement anti-médecine, c'est quelque chose qui va directement à l'encontre de ce que je crois des nécessités de la vie, des nécessités d'une famille.
Oui.
Ce qui se passe sur le front des vaccins est extraordinaire.
Vous seriez favorable, par exemple, pour une vaccination obligatoire à partir du moment où on aura le vaccin en France ?
Il y a beaucoup de vaccinations obligatoires en France.
Et donc, contre le
Covid ? Quand les bébés naissent, il y a l'obligation de faire le tétracoque.
11 vaccins.
Oui,
vaccins
et puis ensuite, maintenant, sans doute beaucoup plus.
Mais donc, vous seriez favorable à cette obligation pour le vaccin anti-Covid ?
Après qu'on se sera assuré que le vaccin marche et qu'il est complètement supporté.
Principe, oui.
Sur le principe, oui, bien sûr. Mais heureusement qu'on a des vaccinations obligatoires. Vous savez, il y a des pays où la rougeole est en train de repartir parce qu'on a été négligent vis-à-vis des vaccinations. Et ça tue. Et donc, moi, en tout cas, je ne connais aucun médecin autour de moi qui ne soit pas certain que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Mais ce que je disais sur le front des vaccins, c'est incroyable. Vous avez entendu le vaccin qu'on appelle Moderna, qui a été annoncé il y a 48 heures, dont on dit que l'efficacité est de 95%. Il a été dit, le PDG français de l'entreprise de vaccins, Moderna.
Ici même, au micro d'Europe 1,
voilà,
hier soir.
Il a dit, ça a été décidé en 48 heures et développé en 42 jours.
Oui,
et vous vous rendez compte des incroyables capacités de l'humanité qui arrivent à vaincre. Vous vous souvenez de vaccins qu'on a cherchés pendant des décennies et qu'on n'a pas trouvé ? Pour la grippe, je crois qu'il a fallu 25 ans.
Et au pays de Pasteur, ça fait du bien que ce soit aussi un Français qui soit à l'origine de,
Français,
de ce vaccin.
Au pays de Pasteur, parce que nous sommes le peuple qui a développé la vaccination.
Je me permets d'avancer, François Bayrou, parce que j'ai beaucoup de sujets que je voudrais aborder avec vous sur les échéances électorales à venir, notamment qui sont considérablement modifiées par la crise sanitaire. Il y a quelques jours, vous vous êtes dit favorable au report des élections régionales en raison de ce contexte sanitaire. Et vous allez même plus loin. Vous dites qu'il faut changer le mode de scrutin en autorisant le vote par Internet et par correspondance, car cela ferait reculer, dites-vous, l'abstention. Alors, plusieurs remarques, et vous allez réagir. Le premier, c'est un peu contre-intuitif quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis avec les problèmes que ça a suscité. Et deuxième question, est-ce que cette abstention, ça n'est pas d'abord aux politiques de se réinventer pour donner aux Français envie de voter ?
Sans aucun doute. Mais alors, d'abord, on va distinguer deux choses. Ce que vous avez dit, il s'agit de changer le mode de scrutin. Non.
Le mode de scrutin,
voilà, l'expression du vote, l'organisation du vote, en offrant une possibilité supplémentaire, pas en remplaçant le vote dans l'isoloir et dans l'urne, mais en offrant une possibilité supplémentaire.
Donc en votant par Internet ou par correspondance ?
J'ajoute que moi, je suis favorable au changement du mode de scrutin parce que je trouve qu'une représentation plus juste de la population serait meilleure pour la démocratie.
Donc
tous les grands courants y soient. J'ai d'ailleurs vu un sondage ce matin qui dit que 75% des Français sont de cet avis, ce qui est encourageant. Mais là, pas du tout. Il s'agit d'ajouter à l'expression classique du vote, je vais dans le bureau de vote, je passe par l'isoloir, je mets mon bulletin dans l'urne, la possibilité soit de voter par correspondance, comme ça se fait aux États-Unis, il y a eu 100 millions de votes aux États-Unis. En Suisse, je lisais que 90% des votes sont exprimés par correspondance. Et vous avez été, comme tous les Français, surpris, mais comme vous êtes journaliste encore davantage, vous avez été surpris au printemps parce que les Allemands avaient des municipales en même temps que nous et ils ont tenu leurs élections municipales parce qu'ils font voter par correspondance. Alors si on me dit que ce n'est pas des démocraties, je ris. Oui. Vous dites qu'il y a des problèmes aux États-Unis. Non, aucun. Jusqu'à maintenant, sur 100 millions de votes, il n'y a pas eu un tribunal d'une seule ville, d'un seul État qui ait dit qu'il y avait des problèmes.
Donc correspondance aucun. Et Internet, François Bayrou
Et je suis, moi, favorable encore davantage au vote par Internet. Tout le monde sait bien que toutes les associations votent par Internet, que la plupart des consultations se font par Internet et que c'est quelque chose qui permettrait de régler toutes les difficultés parce que vous exprimeriez le vote directement de chez vous, de votre portable, sans aller au bureau de vote. Et même si vous n'aviez pas d'ordinateur, vous pouvez aller à la mairie et on vous met, on vous confie un ordinateur.
Est-ce que dans votre esprit, cette façon de voter pourrait s'appliquer à la présidentielle de 2022 ?
Oui.
Donc à tous les scrutins.
Je le crois et je le souhaite.
Oui.
N'est-ce pas ? Il s'est passé quelque chose que vous avez tout à l'heure vous-même souligné, c'est que au municipal, il y a eu une abstention terrible. Et cette abstention, au premier tour, on a pu penser que c'était la crainte du virus. Mais au deuxième tour, il n'y avait plus de virus, ou en tout cas, on ne savait plus qu'il y avait de virus. Et beaucoup de Français, cependant, ne sont pas venus voter. Les deux tiers ne sont pas venus voter. Et moi, je ne me satisfais pas d'une organisation des consultations électorales qui, en fait, fait que 2 sur 3 des électeurs ne viennent pas voter. Et donc, je trouve que le vote par correspondance qu'on pratique partout et qu'on a pratiqué si longtemps...
Ça pourrait favoriser la mobilisation.
Mais je suis, moi, davantage encore pour que la France ouvre le chemin de ce vote moderne qu'on fait partout, qui est le vote par Internet.
Alors c'est intéressant parce qu'on parle ce soir avec vous de défiance, c'est un mot qui revient beaucoup. Les anti-vaccins, le conspirationnisme qu'on voit éclore dans notre société. Il y a un mot qui revient beaucoup aussi dans les sondages sur le sujet, c'est le mot autorité. Il y a dans notre pays le sentiment d'un manque d'autorité, François Bayrou, que vous avez incarné d'une certaine manière à une époque, avec un geste resté célèbre. C'était la gifle de Strasbourg en 2002. Voilà, un gamin vous fait les poches et la main part toute seule. Et quelques jours plus tard, chez Jean-Pierre Elkabbach, vous dites ceci.
Franchement, mettre sa main dans la poche et découvrir que vous avez, qu'il y a une main d'un enfant dans votre poche, comme si tout ça était normal. Eh bien, je dis qu'il faut que désormais une fermeté s'exprime.
Donc, vous confirmez l'argument des principaux candidats à cette élection présidentielle, sus à l'insécurité.
Je confirme l'argument, mais je dis pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?
18 ans plus tard, François Bayrou, on en est exactement au même point. Pourquoi le président Macron a du mal avec ce sujet de l'insécurité, de l'entrisme religieux et islamiste?
Alors, je pense qu'on confond plusieurs choses. La plupart des polémiques d'aujourd'hui sur le président de la République, c'est pas qu'il manque d'autorité, c'est qu'on l'accuse d'en avoir trop. Partout, dans vos journaux, sur les journaux écrits, ce qu'on dit, c'est autoritarisme. En réalité, vous savez bien de quoi on accuse les policiers.
Alors je reformule, non. François Bayrou, un manque de réalisme sur les questions de sécurité. Il a d'ailleurs lui-même verbalisé au moment de la campagne présidentielle qu'il a remportée le fait que pour lui, l'islamisme et l'entrisme, c'était d'abord un problème économique et social.
Il y a les deux. Même, j'allais dire, il y a les trois.
Mais est-ce qu'il a été un peu naïf sur ce sujet ?
Non, pas du tout. Vous savez, le... il y a plein de donneurs de leçons en politique, puis quand on les met au pouvoir, on s'aperçoit qu'ils sont des catastrophes ambulantes. Mmh. Et on pourrait en citer quelques-unes ensemble. Il y a,
par exemple,
premièrement...
Par exemple,
vous
les
prenez,
catastrophes ambulantes.
Vous prenez les présidents de la République précédents, c'est exactement ce qu'on leur a reproché.
Nicolas Sarkozy, François Hollande.
Et ça a mal fini. Et donc, laissez-moi ne pas faire de polémique si je peux. Quelquefois, on est obligé, mais là, si je ne suis pas obligé. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une société qui a besoin que ceux qui en sont les responsables lui rappellent les règles. À tous. Et les règles, c'est la première règle, c'est le respect. Le respect de la loi et le respect de l'autorité. Et particulièrement, moi je suis très choqué qu'on ne respecte pas ceux qui sont chargés de notre sécurité.
Les policiers.
Parce que je ne sais pas si vous imaginez ce qu'est la vie de ces hommes et de ces femmes qui se font insulter, cracher dessus, quelquefois poursuivre par des insultes dans la rue, eux, leurs enfants ou leurs familles. Et je trouve qu'on pense jamais à ce côté humain d'une fonction qui est une fonction indispensable
exemple,
dans une société.
Pour raccrocher avec l'actualité, vous êtes favorable à ce texte de loi, à ce projet de loi dont un des dispositifs, c'est d'interdire et de flouter le visage des policiers en manifestation, ça vous trouvez que c'est bien ?
Je trouve que flouter, c'est quelque chose qui refuse de jeter de l'huile sur le feu.
Ça ne pose pas la problématique de la liberté de l'individu de pouvoir filmer un policier s'il y a un problème ?
Je dirais que le problème principal aujourd'hui, c'est l'insécurité dont les policiers ont la charge de lutter contre elle. C'est le problème principal que ressentent tous nos concitoyens, c'est qu'ils n'ont pas la tranquillité et le respect dont ils ont besoin.
Oui.
Et particulièrement les plus en difficulté économique, sociale ou culturelle,
oui.
Particulièrement les plus pauvres,
oui.
Particulièrement ceux qui habitent des cités dans lesquelles cette tranquillité-là n'est pas assurée, je vous assure. Peut-être on n'y va pas assez, mais comme je suis maire et là, j'ai cette chance d'y aller tout le temps, quand une jeune femme, mère de famille, vous appelle en disant « il y a des dealers en bas, il y a des dealers dans le hall de l'immeuble, il y a des dealers qui se cachent derrière le troisième immeuble à gauche » et qu'il n'y a pas de moyen de lutter contre.
Et vous partagez le mot « ensauvagement de la société » par exemple, pour revenir sur un mot qui a agité l'actualité ces derniers mois.
Oui, qui a agité l'actualité.
Oui ou non ?
Ça arrive de manière récurrente. C'était le mot que Jean-Pierre Chevènement avait utilisé autrefois. Et jamais ce mot ne m'avait choqué. Parce que oui, il y a des conduites qui sont des conduites sauvages. Il y a des attitudes qui sont des attitudes sauvages. À Pau, dans ma ville, un monsieur a été tué à coups de poing par une bande. Si c'est pas sauvage, alors de quoi on parle ?
Oui.
Et donc, moi, ce que je vois Vous décrivez une société dans laquelle les policiers seraient trop agressifs, trop intrusifs.
Moi ce que je vois, je pose des questions.
Non,
François Bayrou.
Je comprends, mais nous parlons. Moi, ce que je vois, c'est une société dans laquelle on ne peut pas faire respecter la règle et la sécurité simplement parce que l'action publique ne peut pas intervenir dans certains quartiers.
J'ai une dernière question pour vous, François Bayrou, qui concerne votre poste de haut commissaire au plan. Je voulais y consacrer un peu plus de temps. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est presque terminé. C'est une fonction importante hein, qui n'est pas nouvelle. Ça remonte à 1946, avec à l'époque un certain Jean Monnet qui avait pris la présidence de ce commissariat au plan. Ça a été le premier. Le Concorde.
Et c'est le général de Gaulle qui l'avait créé. Oui.
Le Concorde, des grands ports, des autoroutes. Est-ce que vous nous préparez, François Bayrou, dans la coulisse de votre ruche, avec tous les ingénieurs qui travaillent à vos côtés, est-ce que vous nous préparez le grand projet de demain? Et quel est-il?
Pourquoi pas, mais je vais vous dire les deux premiers grands projets pour moi. Le premier projet, c'est qu'on a découvert dans cette épidémie que la France était dépendante pour des productions vitales.
Oui.
De circuits d'acheminement qui faisaient qu'on a été au bord de la pénurie pour les médicaments, pour les antibiotiques, pour les anesthésiques, pour les corticoïdes, pour les médicaments contre le cancer. On a été à un millimètre de voir nos approvisionnements donc, suspendus.
Relocalisés.
Et donc, premièrement, il y a des produits d'urgence pour qu'on soit indépendant.
Oui.
Et nous devons avoir la garantie que ces produits ne peuvent pas être empêchés de nous arriver. Et donc produits en relocalisation ou être prêts à le faire. Premier point. Il y a un deuxième point. Il ne vous aura pas échappé que là, on dépense beaucoup d'argent, qu'on aide beaucoup de gens qui se retrouvent au chômage. Et tout ça, c'est le contrat social de la France.
Oui.
C'est avec ça qu'on vit. Et on peut dire que d'une certaine manière, la France, c'est ça. C'est cette garantie, cette sécurité sociale. Or, on ne peut pas assumer cette sécurité sociale si on n'a pas un appareil de production qui soit à la hauteur. On ne pourra pas l'assumer si on reste avec les difficultés et les manques. Et vous voyez, urgence, indépendance, et comment la garantir? Et deux, comment reconstruire un appareil productif? Vous retrouverez là des combats que j'ai mené dans d'autres élections présidentielles.
Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Et je serai content qu'on en reparle.
Merci François Bayrou de nous avoir accompagnés dans le grand entretien d'Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h52, le club des idées qui se poursuit avec désormais les archives d'Europe Soir. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
Nous allons ce soir vous raconter comment une petite bataille a failli compromettre l'ouverture de l'un des plus beaux musées du monde. 18 novembre 1993, le public découvre ce que l'on appelle à l'époque le Grand Louvre, immense chantier décidé par François Mitterrand, qui inaugure le tout nouveau musée en grande pompe après des années de travaux. Mais ce n'est pas le travail de la pierre, Pauline, qui aura été finalement le plus délicat, mais plutôt la gestion des hommes et leur goût pour les dorures de la rue de Rivoli.
Exactement. Tout commence lorsque Jack Lang suggère à François Mitterrand de rendre le bâtiment tout entier au musée. Le président répond « Bonne idée, mais difficile. » Parce qu'à l'époque, dans l'aile Richelieu, depuis 1871, est hébergé le ministère des Finances. Bronze, boiserie, tapisserie, vue magnifique sur la cour Napoléon. Mais Mitterrand est convaincu, rappelle Jacques Paoli en direct du Louvre, pour l'inauguration en 1993.
Il me semble me souvenir que c'était en septembre 80, une certaine phrase du président de la République, M. Mitterrand, qui avait dit en gros, sans vouloir désobliger personne, ça serait pas mal qu'on rende le Louvre à sa destination.
Oui, bien entendu, parce que le Louvre, à cette époque-là, se trouvait le long de la Seine et il était caché par le ministère des Finances. Pour aller au Louvre, il fallait passer par les guichets du Louvre, rentrer dans une cour avec des voitures. C'était extrêmement difficile à trouver l'entrée du Louvre.
Dès le début, on sent que les ministres se cramponnent aux moulures. Oui. En 1984, Pierre Bérégovoy et Henri Emmanuelli demandent qu'au moins eux puissent rester et garder l'usage des magnifiques appartements du duc de Morny. Réponse de Mitterrand, si les ministres ne veulent pas quitter le Louvre, eh bien ils quitteront le gouvernement. Pas de résistance, Bérégovoy et Emmanuelli signent pour un transfert à Bercy.
Et puis Pauline, en 85, l'alternance se profile. Le ministre de la Culture, Jack Lang, ne veut pas que la droite remette en cause le projet. Il prend alors une décision qu'il pense radical.
Oui, il fait démolir le bureau du ministre dans l'aile Richelieu. Mais 86, Balladur devient ministre des Finances et il veut absolument se réinstaller rue de Rivoli. À ce moment-là, le ministère est installé provisoirement boulevard Saint-Germain et lorsqu'il arrive dans les bureaux, Balladur dira simplement « ce n'est pas notre niveau ». Mitterrand a beau lui dire non, Édouard Balladur réoccupera les lieux au Louvre le 14 avril 86.
Et la Pauline, la Ve République, vit l'un des moments les plus ubuesques de son histoire. Dites-nous.
Au Louvre, les décors Napoléon III avaient été cassés, mais Balladur fait tout pour les restaurer. Pendant que le ministre se réinstalle avec son équipe, les travaux du Grand Louvre continuent. Mais impossible de travailler la journée pour les ouvriers qui ne devaient pas déranger les fonctionnaires. Alors, lorsqu'ils quittent les lieux, de l'autre côté des cloisons, les ouvriers arrivent pour travailler la nuit. Récit de Michel Grossior, le matin de l'inauguration du Grand Louvre sur Europe 1.
En 1981, je pensais avoir le temps, a dit le chef de l'État, allusion aux difficultés de la première cohabitation. Édouard Balladur, alors ministre de l'économie, avait fait, vous le savez, un peu de résistance avant de quitter l'aile Richelieu pour aller à Bercy. Et François Mitterrand a évoqué le combat budgétaire qu'il a fallu mener, y compris quand le gouvernement était de gauche.
Les crédits, ça se donne et puis ça se retire. Il faut avoir les doigts d'Harpagon pour les retenir.
Après avoir refusé à un architecte l'accès au raccordement de chauffage, Édouard Balladur finira par céder et déménagera, toujours le long de la Seine mais loin des dorures, direction Bercy. Il faut donc du temps pour quitter ces salons de Morny. Sachez que l'idée du Grand Louvre avait d'abord été soufflée par André Malraux au général de Gaulle.
Merci pour ces infos, on en apprend des choses intéressantes avec vous Pauline Jacquot, merci.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, dans un instant, le rappel de l'info avec Julien Pierce. Et puis juste après, on retrouve Émilie pour la musique avec un live ce soir, Émilie.
Oui, Bilal Hassani est notre invité. Ça, c'était sa chanson de l'Eurovision. Depuis, ouais. Il a sorti un premier album et un deuxième il y a quelques jours, l'excellent Contre-soirée. Et il sera là donc pour discuter, évidemment. Bilal Hassani, lui qui a été le visage d'une campagne de pub d'Europe 1. Et puis nous offrir aussi deux titres en acoustique.
Oui, écoutez le monde changer. Merci, Émilie. À tout de suite, alors. Avec ton invité pour ce live qui s'annonce super. 19h57, donc le rappel de l'info dans quelques secondes. Quant à moi, je vous dis rendez-vous demain, même lieu, même heure. On écoute donc le monde changer, vous avez compris, sur Europe 1. Merci de votre fidélité. À demain.
Europe 1.